Vous écoutez France Culture.
Réplique 1940-1944, la France occupée face aux persécutions, avec Henri Rousseau et Jacques Semelin. Il ne se passe pas une semaine en France sans que soient évoquées, avec crainte et tremblement, les heures les plus sombres de notre histoire. Cette référence incessante valide l'expression qu'Henri Rousseau et Éric Conant ont choisie pour titre de leur livre « Vichy, un passé qui ne passe pas ». Et peut-être est-ce une bonne chose que ce passé nous reste en travers de la gorge. Peut-être faut-il que la mémoire de l'occupation et de la collaboration nous tourmente, que cette honte occupe notre mémoire et inspire notre vigilance pour éviter que ce qui a eu lieu ne se reproduise un jour. Mais connaissons-nous vraiment l'époque qui nous obsède? Que savons-nous de cette noirceur à laquelle nous revenons sans relâche? C'est le dernier livre de Jacques Semelin, « Persécution et entraide dans la France occupée », qui invite à se poser la question. 75% des Juifs en France ont échappé à la mort, écrivez-vous Jacques Semelin. Et cette survie ne peut s'expliquer uniquement par le fait du hasard. Ils ont pu bénéficier, écrivez-vous, de la formation dans les années 1942-1944, d'un tissu social non conforme, désobéissant, voire résistant, au sein duquel, comme d'autres parias et ennemis de l'occupant et de Vichy, ils ont pu se cacher et survivre. Est-ce à dire, Jacques Semelin, que le temps est venu d'une réhabilitation du français moyen des années noires à égale distance de l'héroïsme du tous résistant et de l'ignominie du tous collabo? Jacques Semelin.
Oui, bonjour. Le mot réhabilitation, je l'aime pas trop, parce que ça peut invoquer des arrière-pensées politiques. Votre question évoque deux personnes éminentes qui ont encouragé à faire ce travail, que je voudrais citer tout de suite. C'est Simone Veil, en France, et Stanley Hoffman, aux États-Unis. Je souhaite leur rendre hommage, parce que ces deux personnes ont vraiment contribué à un moment à déclencher cette recherche. Simone Veil plus que Stanley Hoffman, mais aussi Stanley Hoffman, ont vivement critiqué le film Le Chagrin et la Pitié de Marcel Olfus.
Oui, qui a un peu changé la perception générale en France de cette période. C'est-à-dire, on est sorti à ce moment-là du mythe dont le général de Gaulle avait fait cadeau à la France, d'une France tout entière, unie avec lui dans la résistance à l'occupant. Mais on est allé, avec ce film, Chagrin et la Pitié, complètement de l'autre côté, voilà, en quelque sorte. C'est une France presque tout entière collaboratrice qui est montrée et dénoncée dans ce film.
Voilà, et c'est en ce sens-là qu'ils avaient réagi, et ce n'était pas à hasard qu'ils ont voulu, à un moment ou à un autre, marquer leur intérêt pour mon travail. D'autant que ce film, Le Chagrin et la Pitié, alors, s'agissant de français moyen, présentait un français moyen, on va dire, assez glauque. Alors, pour répondre à votre question, moi, je n'aime pas l'expression de français moyen.
Vous l'utilisez pourtant.
C'est une citation de Stanley, je crois, qui est aussi repris d'une autre manière par Saul Friedlander dans leurs mémoires respectives. Que dire, des gens ordinaires,
oui,
voilà, plutôt des individus ordinaires, le concierge, la concierge, le gendarme, le facteur, la cultivatrice, etc. Bon, ces gens-là, à un moment donné, ça abordé à travers la notion de juste, mais la notion de juste, est, de manière mémorielle, posait aussi des problèmes, ont posé des actes d'entraide. D'entrée dans la période la plus critique, qui est celle des années 1942-1944. Mais en même temps, il y a aussi des salauds, il y a aussi des gens qui dénoncent. tout ce que vous avez dit là, eh bien, j'essaye d'en faire un tableau complexe.
Oui, il s'agit pas d'un tableau complexe, Jacques Semelin, mais quand même, au bout du compte, vous vous inscrivez en faux contre une lecture très critique, non pas de l'État, disons, du maréchal, non pas de l'État français de Vichy, mais de la société française de cette époque, en montrant tout de même que, par-delà la résistance active et militaire, il y avait ce réseau, précisément, et auquel beaucoup, beaucoup de gens doivent leur survie. C'est bien
oui,
ce que vous dites.
Absolument, vous avez raison. Et les rapports de Vichy en l'attestent. Ils attestent de cette solidarité. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est ces années 1942-1944, au point que Bousquet, s'il y a eu un moment une volonté d'endiguer ces gestes d'entraide, elle est venue de Bousquet en 1942, parce qu'il s'était rendu compte qu'au moment de la rêve du Veldiv, il y avait des policiers qui avaient fait passer des infos pour que les gens s'enfuient. Mmh. Donc ça, c'est le rapport de Vichy, et c'est aussi les témoignages que j'ai récoltés pendant plusieurs années. Donc oui, c'est cette période-là qui est critique, et je propose une nouvelle notion aux historiens. J'appelle ça la réactivité sociale. Ce n'est pas de la résistance. C'est plus que de l'entraide. C'est un entre-deux. C'est un entre-deux qui fait que, dans une période extrêmement difficile que connaît ce pays, eh bien, des individus, alors, entre guillemets, ordinaires, qui ne se connaissent pas entre eux, et sans instruction particulière, vont se mettre à aider d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas davantage, mais dont ils voient la situation de grande vulnérabilité. Notez que j'utilise le mot d'aide et non pas de sauvetage. Ce mot sauvetage, non, je ne le vois pas dans les archives. J'ai appris de Pierre Vidal-Naquet qu'on ne peut pas écrire l'histoire, entre autres, hein, de Pierre Vidal-Naquet, qu'on ne peut pas écrire l'histoire en historien quand on connaît la fin de l'histoire. Je trouve que ce mot sauvetage est plaqué aujourd'hui, dans beaucoup de, y compris parmi certains de mes collègues, parce qu'on connaît la Shoah. Hein. Eh bien, moi, je ne trouve pas ce mot-là. Peut-être on va trouver sauver les enfants, oui, mais c'est tout. On va trouver entraide, aide, planque, cachette, etc. Mmh. Donc on est dans cette situation-là. Et cette situation, elle est extrêmement grave. C'est les années 42-44, donc c'est les pires que connaît ce pays. C'est celle des déportations de masse. Et donc il y a tout. La délation, il y a la collaboration,
mais
il y a aussi ça. Et c'est une des explications principales que donnent les témoins du fait qu'ils ont pu s'en sortir.
Henri Rousseau.
Oui, écoutez, je ne veux pas tout de suite entrer dans la polémique, mais je vous écoute et j'ai quand même un peu l'impression d'une forme de régression, je le dis clairement.
Parce vous entrez tout de suite dans la polémique, alors.
Oui, non, oui. Mais régression, c'est pas au sens... C'est pas que je veux condamner tout de suite ce que j'ai entendu. Mais enfin, quand même, on a le sentiment, au fond, en écoutant comme ça la petite musique de ce qu'on vient d'entendre, que nous en sommes restés à, en gros, une interprétation de la France occupée qui serait celle du chagrin et la pitié. C'est absurde. Le chagrin et la pitié, rappelons-le, il est sorti en 1971, qu'il ait eu une influence, j'étais le premier à le dire, et je le maintiens dans la réinterprétation de cette époque, c'est une évidence. Il s'est quand même passé énormément de choses depuis 1971. Que, du point de vue de l'histoire, les historiens ont quand même énormément travaillé. Quand j'écoute Jacques Semelin, et je pense que son livre, malgré tout, est très intéressant parce qu'il pose une question fondamentale, mais enfin quand même, la réactivité sociale, c'est quand même pas une invention d'aujourd'hui. Les Allemands avaient déjà, il y a une vingtaine d'années, notamment je crois que c'était Martin Brojat, le grand historien allemand, avait déjà avancé cette notion qui valait pour l'ensemble de leur occupé, il faisait la distinction entre Widerstand et Resistance, c'est-à-dire en allemand, c'est-à-dire la résistance au sens actif, les mouvements, les combats, etc., et la résistance au sens où d'un corps social qui réagit ou qui résiste aux formes de totalitarisme ou d'occupation. Bon, tout ça n'est pas nouveau.
Oui, mais
je reprends juste un truc que excusez-moi, à propos que vous avez dit, je m'emporte déjà, sur la mythologie du général de Gaulle. Le général de Gaulle n'a jamais dit que les Français avaient été tous résistants. Ça, c'est une invention de la mémoire après coup. C'est ce que dit notamment Pierre Laborie dans son livre. Mais c'est faux. Le général de Gaulle n'a jamais dit que les Français avaient été tous résistants. Ce qu'a fait le général de Gaulle, c'est qu'il a érigé ou il a fondé son action politique, notamment à partir de 1958, sur la glorification de ce qu'avait été l'action d'une minorité engagée. C'est ça, le fond du problème.
Oui, mais... Là, je voudrais vous citer justement Pierre Laborie dans un livre, « Le chagrin et le venin ». Occupation, résistance, idées reçues, qui ressort chez Gallimard dans la collection Folio. Il parle d'une nouvelle vulgate qui se serait instaurée par petites touches et selon laquelle seules de rares individualités, chevaleries d'exception, patriotes inflexibles ou gens ordinaires poussés un jour par la révolte d'une conscience assoupie tranchent avec la grisaille ambiante. Mais le reste, c'est une veulerie largement partager une France glauque entre médiocrité et bassesse. Cette vulgate existe malgré tout. Alors la question que je voudrais vous poser, Henri Rousseau, c'est où vous situez-vous en tant qu'historien par rapport à ce que Laborie appelle cette vulgate.
Oui, il l'appelle, mais il ne la démontre pas. Écoutez, on ne va pas parler du livre de Laborie ici.
Oui, mais il parle parce qu'il va dans le même sens que...
Non, pas du tout. Non, je fais une grande différence.
Nous sommes très proches entre Pierre Laborie et moi-même.
Mais, c'est le point de départ. Mais l'intérêt de l'ouvrage de Semelin, avec lequel j'ai de gros désaccords, mais peu importe, l'intérêt de l'ouvrage de Jacques Semelin, c'est qu'il pose une question qui a été posée il y a 30 ou 40 ans. Ce n'est pas une question nouvelle. Bon, il essaie d'y apporter des réponses qui sont les siennes, avec un certain nombre d'éléments nouveaux, et il voudrait recomposer le tableau, non pas de l'occupation dans son ensemble, mais de l'attitude des Français. Je reprends cette expression que vous avez employée de Français moyen, bon, qui est un peu rapide, mais la question de l'attitude des Français dans leur ensemble, dès lors qu'on n'arrive pas à les identifier dans un mouvement de résistance ou dans un parti politique ou au sein d'un appareil d'État ou d'institution, c'est le point aveugle de toutes les études sur l'occupation depuis le début. C'est là où, en plus, l'historiographie française ou étrangère, c'est le plus concentré. L'ouvrage de Jacques Semelin s'inscrit dans une continuité. Ce n'est pas la première fois qu'on s'intéresse. Oui. Pierre Laborie lui-même,
mais
il y a plus de 25 ans.
Vous, situez-vous, vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que,
mais moi, j'ai condamné cette vulgate, si tant est qu'elle ait existé, pour la situer dans un certain nombre de discours publics, de journalistes, etc. Nous l'avons dénoncé avec Éric Conant en 1994, c'est-à-dire il y a 20 ans. Alors, après, il y a deux questions. Un, est-ce que cette vulgate est toujours d'actualité aujourd'hui ? Et j'attends qu'on m'en donne les preuves, et je suis prêt à montrer, c'est ce que nous avons montré dans la réédition du passé qui ne passe pas, que cette vulgate, au contraire, est en train de disparaître, notamment dans les discours officiels. Et deuxièmement, alors là, c'est peut-être la question finalement la plus importante, sur le plan historique, que peut-on dire, et notamment la question, pourquoi la majorité des Juifs de France, et notamment des Juifs français, n'ont pas été déportés et n'ont pas été persécutés?
Alors, ça, c'est une vraie question. C'est la deuxième question qui m'importe, et j'aimerais que ce soit sur celle-là que nous nous concentrions. Jacques Semelin.
Vous avez utilisé le mot de régression à mon égard. Je pourrais reprendre quelques passages du passé qui ne passe pas dans son actualisation, qui me montre que, pour moi, on est dans une régression de la pensée et qu'on est aussi dans la vulgate que vous dénoncez. Alors, j'y viens tout de suite. Oui. Dans la manière dont il ne prend pas en compte, déjà, le thème que je porte. Vous... Dans un passé qui ne passe pas, ou que ce soit dans le syndrome de Vichy, où posez-vous la question du fait que les trois quarts des Juifs ont survécu en France ? Je ne le trouve nulle part. J'ai relu le passé qui ne passe pas. Ce chiffre des 75%, il vient une seule fois. Ce n'est même pas vous qui le prononcez. Vous citez le président Jacques Chirac. En tant qu'historien, vous n'y revenez même pas. Vous ne faites pas un... En principe, c'est l'histoire et la mémoire. Votre travail, c'est
non,
ça.
La réactivation du passé qui ne passe pas, c'est le chapitre dont vous parlez. C'est un chapitre qui porte essentiellement sur les politiques de mémoire depuis, en gros, 1997-1998, qui était la date de la dernière apparition de l'ouvrage. Oui. Bon, donc la question de savoir pourquoi les 75%...
C'est pas votre sujet.
C'est pas le sujet. Non, j'aurais pu poser toutes les autres...
Mais ça fait partie de l'histoire et de la mémoire. Ça fait partie. Marius et Paxton, le livre de 1983.
Ça, c'est votre sujet, Jacques. Bon, si vous voulez dire que dans la réactualisation, nous n'avons pas assez parlé de votre livre, c'est possible.
Mais non, mais il n'était
pas
paru encore.
Si je n'en ai pas parlé
encore.
Assez, c'est parce que je suis en désaccord total avec la manière dont vous l'avez
fait. Il n'était pas paru, Henri. Donc, oui, vous ne pouviez pas en parler.
Attendez. Alors,
si, bien sûr.
Ce qui importe, pour moi et pour les auditeurs, c'est de savoir quelle image nous devons avoir de la société française et de ce que vous considérez, Jacques Semelin, quand même, comme le paradoxe français, par opposition à d'autres pays. Dans la réponse qu'il vous a faite, Paxton dit, si on compare la France avec l'Italie fasciste, il y a eu moins de juifs italiens déportés qu'en France, et il fait d'autres comparaisons, il prend la Hollande et la Belgique, où en effet les déportations ont été massive, parce qu'il n'y avait pas de gouvernement de collaboration, qu'il n'y avait pas de tampon, mais il dit qu'il y a eu des manifestations, aussi bien en Belgique qu'en Hollande, contre le port de l'étoile jaune, contre le renvoi des professeurs de lycée. Celles se sont retournées contre les manifestants, qui ont été très sévèrement réprimés, mais, dit-il, de tels actes, on ne les a pas vus en France. Il dit aussi que dans les rapports des préfets, l'antisémitisme était de la population ou l'adhésion de la population à la politique antisémite de Vichy semblait très importante. Il dit que vous avez tort de sous-estimer les rapports de ces préfets, car quand Laval, par exemple, quand il y a la célèbre poignée de main avec Hitler, eh bien, les préfets disent que... quand Laval dit... parle d'une politique de collaboration active avec l'Allemagne, je ne sais plus exactement quel est le terme, les préfets disent que ça a été très mal perçu par la population. Donc, ils essayent de dire le vrai. Voilà, si vous voulez, quelques objections qui vous ont été faites, et je voudrais qu'on reste sur ce terrain-là, que nous comprenions mieux.
Ces objections, certaines sont recevables, d'autres ne le sont pas, parce que ce que dit Paxton des manifestations en Belgique, aux Pays-Bas et dans d'autres pays, j'ai déjà écrit tout ça dans Sans armes face à Hitler. En général, les gens ne l'ont pas lu.
Mais bon, peu importe.
Mais je veux dire, c'est important. C'est-à-dire, j'ai cette histoire-là avec moi. C'est-à-dire, j'ai cet héritage. Oui. Le livre « Persécution et entraide », il vient de deux autres livres. « Sans armes face à Hitler », où c'était une approche générale de la résistance civile dans l'Europe nazie, où je parlais déjà du sauvetage, et de « Purifier et détruire », qui est sur le génocide. Quand Paxton dit que je minimise le génocide, je trouve ça de mauvaise foi.
C'est pas la question, Jacques Semelin. La question, c'est de savoir que tirons-nous, qui n'entrons pas dans ce genre de débat et qui ne connaissons pas forcément l'historique des œuvres des uns et des autres, que tirons-nous de la comparaison entre la situation en France, la situation en Italie, aux Pays-Bas ou en Belgique?
Je pense
Quelle conclusion en tirons-nous?
Avec Henri, au moins, on pourrait s'entendre sur une question commune et qui est en fait posée par l'historien Maxime Steinberg dès 1993 et qui parle justement, vous l'avez dit, Alain Finkielkraut, du paradoxe français. Comment se fait-il que dans un pays qui a un gouvernement collaborateur et qui est antisémite, donc qui participe activement à la persécution et à l'arrestation et à la déportation des Juifs, comment se fait-il que 75% d'entre eux ont survécu? Ça, c'est ma question de base. C'est la question que Marus et Paxton n'ont pas abordée. Si vous lisez Vichy et les Juifs, ouvrage maître de 1983...
C'est pas leur problème.
Ils ont deux paragraphes... Oui, mais alors, on peut pas me reprocher... Bon. Ils ont deux paragraphes à la dernière page sur ce thème et ils sont pas bons en plus.
D'accord.
Donc on est dans une autre historiographie.
Vous parlez d'une sorte d'entraide.
Mais pas seulement. Pour moi, la première réponse de la survie des Juifs, j'aurais voulu le dire dès le début de cette émission, mais ça a pris toute une autre direction. Elle est à chercher dans la réaction des Juifs eux-mêmes. Tout mon travail est de déplacer le regard des justes aux juifs. Comment ils se sont débrouillés pour survivre dans ce pays où il y avait un antisémitisme fort. Donc j'ai voulu...
Comment se sont-ils débrouillés?
Mais écoutez, il y a plus de la moitié du livre qui est consacré à ça. Et ce n'est pas la question du français moyen. La première réponse, c'est qu'ils ont bougé. Le gros chapitre de démarrage s'appelle la dispersion. Donc j'étudie les mobilités des gens. Alors que c'est important de le souligner, les nazis n'ont pas voulu créer de ghetto en France. Donc il y a cette dimension de la mobilité qui les conduit à aller vers la campagne, qui les conduit dans les villes moyennes, puis à la campagne. Et puis ensuite, j'essaye de suivre des individus et des familles. D'abord, j'essaye de traduire ça en... Le pourcentage de 75%, il est totalement abstrait, donc j'ai fait un effort pour essayer de le transférer en chiffres. J'estime qu'il y a au moins 200 000 juifs en France en 1944. Comment ont-ils fait? Donc, à partir de là, j'essaye de suivre des individus concrets, comme par exemple, dans un autre contexte, c'est pas un historien, mais c'était un livre passionnant de Daniel Mendelssohn, Les Disparus. Oui. Au lieu sur les 6 millions, il avait suivi sa propre famille. Timothy Snyder, fait à peu près la même chose pour, dans ces terres de sang. Et là, j'ai sélectionné des itinéraires. Mmh. Donc, je suis ça. Et la question du français moyen, elle ne m'intéresse pas, à la limite. C'est plus compliqué que ça. Et en plus, elle est fausse, parce que quand vous opposez juif et français, ça n'a pas de sens, puisque en 1940, plus de la moitié des juifs sont français.
Oui, donc, et, ceux historiographie... qui sont pas français, et ceux qui ne sont pas français sont quand même beaucoup plus exposés que les autres. Ils ont été déportés très vite, après le fameux billet vert. Et donc, c'était 41-42. Et à ce moment-là, on ne peut pas dire que la réaction de la population française ait été... témoigner d'une solidarité extrême.
Si vous me permettez de rajouter encore un mot, bien sûr, les juifs étrangers ont été les plus vulnérables. D'emblée, c'est partout en Europe comme ça. Mais au cours de cette enquête, pour moi, personnellement, j'ai fait des découvertes. Quand Henri parle de régression, je trouve que c'est un mot qui est inadéquat. Je n'ai jamais vu dans les livres, alors peut-être on va me demander dans cette émission, qu'il ait été dit que 90% des juifs français aient survécu à la Shoah. J'ai refait deux fois ce calcul à partir des statistiques de Klarsfeld. Je l'ai trouvé dit dans un livre qui n'est pas traduit en français de Suzanne Zuccotti de 1993. Et ça m'interroge beaucoup sur, bien sûr, la question de la citoyenneté par rapport aux étrangers. C'est les étrangers qui ont payé le prix fort, on est d'accord. Mais
Henri
même
Rousseau.
Parmi les Français...
Bon, je vais pas me défendre.
Répondez à la question.
D'abord, cher Jacques, générale. Je te renvoie mon que sais-je sur Vichy 2007, je le dis. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, bon, laissons tomber sur le fait que cette question a été posée depuis très longtemps.
Mais peu importe. Bon. Répondez à la question elle-même.
Alors, moi, j'ai une objection majeure au livre qui, sans vouloir dire que toutes les thèses sont inexactes. Par exemple, ce que vient de dire Jacques sur le fait que l'un des principales raisons de la non-persécution, en tous les cas, du fait que Boucon ait pu survivre, c'est l'entraide, la solidarité entre les Juifs eux-mêmes. Ça a été déjà dit dans beaucoup de travaux, et Selmin le dit et le répète, et je suis tout à fait d'accord avec ce point. Là où j'ai un désaccord absolument frontal, et je justifie le terme de régression, même si je conçois qu'il est un peu polémique, voilà ce que dit Jacques Semelin à la page 2. C'est au début du livre. C'est ce qui structure l'argumentation du livre. Comment expliquer cette singularité, je cite, du cas français, puisque la volonté nazie d'exterminer les Juifs est partout semblable, que Vichy collabore à leur déportation et que les dirigeants de la résistance appellent peu ou pas du tout à la population à aider les Juifs. Alors, sur ce qui concerne la résistance, je suis d'accord. Sur ce qui concerne le fait que Vichy collabore, c'est une évidence. Le reste, c'est faux.
C'est-à-dire ?
Quand il dit « la volonté nazie d'exterminer les Juifs est partout semblable », c'est un point de départ qui est totalement inexact.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ce n'est pas vrai. La politique des nazis en Europe occupée n'a pas été la même. Elle n'a pas été la même en Pologne, elle n'a pas été la même en Ukraine, elle n'a pas été la même en Hollande, elle n'a pas été la même en Belgique. Or, dans cet ouvrage de 900 pages qui pose une question tout à fait fondamentale, qui pose la question d'un bilan, la question du criminel n'est pas posée.
Alors,
consacrez 13 pages sur 900 à la politique allemande. Or, de mon point de vue, pour le dire de manière très radicale, c'est la politique allemande telle qu'elle s'est appliquée en France et dans ses rapports avec le gouvernement de Vichy qui peut en partie expliquer
Qu'est-ce qu'elle avait de différent, la politique allemande, par exemple, en France?
Quand vous dites qu'elle avait de différent, c'est la gradation. Je vais prendre un exemple.
Oui.
Un exemple qui est absolument fondamental. Il y en a deux. Il y en a un qui est très connu. C'est l'été 42. L'année 42, c'est le moment où plus de la moitié des Juifs qui sont déportés au total sont déportés. Pourquoi ? Parce que le gouvernement de Vichy accepte de collaborer. C'est la police française qui arrête tous les Juifs, 42 000 pour 1942, qui vont être déportés. En 1943-1944, le gouvernement de Vichy ne laisse plus la police française et refuse d'accéder à une des demandes des nazis, qui est la dénaturalisation des Juifs français pour pouvoir les déporter. Question simple. Pourquoi les nazis, qui sont si puissants, qui ont exterminé déjà des millions de personnes à travers l'Europe, font-ils en France de telles subtilités, demandant au gouvernement de Vichy de rendre des Juifs français apatrides apatrides pour pouvoir mieux les déporter? Pourquoi toute cette politique? Pourquoi est-ce que lorsque le gouvernement de Vichy, pour des raisons stratégiques, va refuser de promulguer cette loi sur la dénaturalisation, pourquoi les Allemands ne réagissent pas ou peu? Il y a plusieurs raisons à cela. Il y en a une qui me paraît absolument fondamentale et qui n'est nulle part dans le livre de Jacques Semelin. La France n'est pas n'importe quel pays pour l'Allemagne. La France, d'abord, la France, la Belgique et la Hollande sont des pays qui sont considérés dans un même ensemble par les services de Himmler. Lorsque Eichmann, en juin 1942, réclame un certain nombre de contingents, il le fait sur les trois pays. Et la répartition de ces trois pays va changer. Et au bout du compte, la balance sera beaucoup plus défavorable pour les Juifs hollandais qu'elle ne le sera pour les Juifs de France. L'un des éléments absolument essentiels, c'est que la France est la frontière de l'Empire allemand. C'est la frontière de l'Empire nazi. C'est un territoire qui sera, qui a été et qui sera dans un avenir relativement prochain, même si on ne peut pas le déterminer, un théâtre d'opérations militaires. L'une des obsessions des autorités allemandes, y compris le Zippo SD et la Gestapo, ça a été le maintien d'une forme de tranquillité des troupes d'occupation en France. Et c'est pour ça qu'ils
ont allés trop loin.
Pour ça qu'ils ont accepté la négociation avec le gouvernement de Vichy. Et le gouvernement de Vichy, lui, a participé à ça parce qu'il croyait qu'en monnayant la question des Juifs, il obtiendrait des contreparties sur d'autres points. Tout ça, bien sûr, c'est de la politique, mais c'est un élément absurde. On n'écrit pas l'histoire d'un meurtre en se désintéressant de la politique du meurtrier.
D'accord.
Alors, j'en ai parlé évidemment dans d'autres bouquins. Mais bon, on s'en fiche. On est d'accord. Je trouve que la conversation prend un tour intéressant parce que, malgré tout, je suis un petit peu stupéfait de vous entendre dire les nazis ne voulaient pas la mort des Juifs partout en Europe. Je veux dire, alors, quid de la volonté d'Hitler ?
Ils n'ont pas eu la même politique.
Alors, mais on est d'accord. C'était ça que je voulais dire dans cette introduction. Oui, mais si vous allez à la fin du bouquin, vous voyez qu'il y a des modulations.
Jacques Semelin, est-ce bien sûr que Hitler voulait exterminer tous les Juifs d'Europe et il rêvait même, si vous voulez, d'en finir avec les Juifs sur la surface de la Terre. C'est ce qui fait d'ailleurs l'unicité de ce génocide. Nous ne pouvons pas partager la planète avec vous. Hannah Arendt l'a très bien dit à la fin de son livre sur Eichmann. Et aucun autre génocidaire n'a eu cette ambition. Il n'empêche, Henri Rousseau vous dit, il y avait des différences, il y avait des gradations dans la politique des nazis. Il ne pensait peut-être pas de la même manière, il n'allait pas aussi vite sur les territoires. Et peut-on, en effet, disons, trouver dans la lenteur relative et dans les négociations des nazis avec Vichy une explication au moins partielle à ce que vous dites des 73% de survivants qui n'ont pas été déportés.
Mais évidemment, et je pense qu'Henri n'a pas bien lu mon livre, parce que ça s'appelle « Les facteurs structurels ». Et dans ces facteurs structurels, j'évalue les rapports entre les Allemands et Vichy. Effectivement, il y a le Vichy qui collabore en 42 vraiment activement, et ça fait 42 000 victimes au bout du compte. Et en 43, les chiffres baissent à 16 000. Et c'est dans cette période-là que Eichmann dit « le programme ne marche pas très bien en France ». Mais sur le fond, je suis d'accord qu'on pourrait aller plus loin laissez-moi terminer. Je suis d'accord qu'on pourrait aller plus loin sur la politique allemande. Et je le souhaite. Mon livre n'était pas là-dessus. Mon livre est d'essayer de comprendre pourquoi, dans ce pays, il y a eu des freins que j'appellerais socioculturels, sociopolitiques, qui ont, disons, enrayé en partie la persécution des Juifs. Et l'explication qui consiste à dire « oui, mais il faut regarder la politique des Allemands », c'est une manière de ne pas regarder la société française. Et de continuer à la voir comme une société glauque.
Selon vous, Henri Rousseau.
Non, mais je voudrais terminer, Alain. Oui. Ces freins, ils sont, à mon avis, de plusieurs natures, mais ils tiennent au christianisme, ils tiennent à l'héritage républicain et ils tiennent à l'esprit patriotique. Et j'aimerais bien qu'on en parle.
Alors, vous dites qu'ils tiennent au christianisme, mais vous avez l'honnêteté, Jacques Semelin, de citer le journal d'Ellenberg, véritable chef-d'œuvre que nous connaissons depuis peu. « Les catholiques crucifient le Christ. Est-ce que les catholiques méritent le nom de chrétiens ? J'ai lu l'évangile selon saint Matthieu. Je vais dire ici toute la vérité. Quelquefois, j'ai pensé que j'étais plus près du Christ que beaucoup de chrétiens. Mais là, j'en ai eu la preuve. Peut-être y a-t-il eu cette solidarité dont vous parlez, mais l'antisémitisme catholique était quand même très répandu.
Bien sûr.
Et lui-même a pu sans doute freiner une entraide qu'on aurait pu souhaiter plus immédiate, plus spontanée et plus massive. Même si, en effet, il ne s'agissait pas de résistance active avec des risques.
Je pense que les historiens sont d'accord sur ce fait. Et là, les travaux de Pierre Laborie en particulier s'appuient, mais Paxton, avec qui j'ai discuté, débattu, est d'accord aussi là-dessus. Il y a le tournant de l'été 42. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à vouloir arrêter, où on arrête les femmes et les enfants, il y a une sorte de répulsion des actes d'entraide qui se développent précisément dans ce moment-là. Et des personnes qui pouvaient ou qui sont animées par des sentiments antisémites ou plutôt de l'anti-judaïsme vont pouvoir aider. Par exemple, je cite le témoignage de Marthe Hoffnung, une juive polonaise qui passe la ligne de démarcation en 1942. Elle va être aidée par un prêtre catholique, Christian de Schonach, je crois, et celui dit, en l'abordant, vous savez, je ne fais pas confiance aux juifs, mais je vais vous aider. Donc, à un certain moment, la compassion l'emporte sur la stigmatisation. Voilà. Et, encore dernier point, c'est parce que l'héritage républicain, c'est très important, mais la déclaration de Mgr Saliège est fondamentale. Je suis de ceux qui voudraient rehausser l'importance du rôle historique de cet archevêque.
L'archevêque de Toulouse, oui.
L'archevêque de Toulouse, qui dit, c'est 20 lignes, mais il y a une phrase qui est capitale, les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux. Et je trouve pathétique que cet homme qui soit quasiment privé de parole, puisqu'il est handicapé, il est atteint d'aphasie, va avoir une parole publique très importante dans le moment le pire que puisse connaître le pays, c'est-à-dire les déportations de masse. Et on le voit à travers les archives, ce texte est repris largement, souvent dans la presse clandestine, y compris, découvert à l'étranger, dans le New York Times. Donc là, il y a un tournant. Et ces catholiques qui peuvent avoir des préjugés, etc., là aussi, Laborie et d'autres le montrent, il y a ces réseaux d'entraide vont être aussi animés, non pas seulement par des protestants, mais aussi par des cathos.
Mgr Saliège, mes très chers frères, il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l'homme, ils viennent de Dieu, on peut les violer, il n'est au pouvoir d'aucun mortel de les supprimer. Et effectivement, les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et ces mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères, comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. Henri Rousseau.
Oui, on peut ajouter à Mgr Saliège, Mgr Théas de Montauban, le 30 août, Mgr Delay de Marseille, le 6 septembre, Mgr Moussaron d'Albi, le 20 septembre, Mgr Vantenberg de Bayonne. Ça, on le sait, c'est un élément très important. Et là je veux dire une chose de positif sur le livre de Jacques Semelin. C'est pas le tournant, l'été 42, la réaction de l'Église catholique qu'on connaît depuis très longtemps. Ce qui est intéressant dans son ouvrage, c'est l'aspect qualitatif, c'est-à-dire effectivement essayer de comprendre à partir de cette prise de conscience, cette parole public est une forme de dissidence ouverte, notamment par rapport au gouvernement de Vichy, comment un certain nombre de Français, qu'ils appartiennent ou non à des organisations, vont se mobiliser pour essayer de protéger, en particulier sur la question des enfants. Là où il y a problème, et j'y reviens, c'est que l'objet du livre n'est pas uniquement ça. L'objet du livre est d'expliquer un bilan, d'une part, et de dire il faut réviser. Le mot a été employé. Oui. Une historiographie, même dans votre... pardonnez-moi, Jacques, dans votre dédicace, vous me dites pour en finir avec les années Paxton. Eh bien, moi, je n'ai pas envie d'en finir avec les années Paxton parce que la différence, c'est que lorsque Paxton a fait son ouvrage, qui est aujourd'hui, j'aimerais bien que mes ouvrages durent 40 ans, avait posé un problème d'ensemble et surtout s'était donné les moyens de répondre à la question qu'il posait avec les sources adéquates. Or, votre livre est tout à fait passionnant sur le plan qualitatif, sur le plan de certains parcours, vous avez une trentaine de témoignages très intéressants, mais vous ne pouvez pas à partir de ces sources répondre à la question que vous posez. C'est ça. La question des Allemands, pour moi, c'est pas la réponse ultime. C'est évidemment pas la réponse ultime. C'est un des problèmes que pose ce livre. C'est une des réponses parmi d'autres.
Oui, mais justement, pour savoir ce qu'il en est de la société française elle-même, est-ce qu'il ne faut pas faire une place peut-être plus importante que celle que vous lui accordez, Jacques Semelin, aux dénonciations. Elles sont moins nombreuses que ne l'a dit André Halimi, oui. Mais les lettres de délation ont existé. Bon, je parle aussi avec ma propre mémoire. Mon père, juif étranger apatride, a été déporté de Paris très tôt. Son frère est allé en zone libre et ses parents ont voulu le rejoindre, mais ils ont été dénoncés par un passeur. Et donc, ils ont été déportés de Bordeaux, un des convois Papon. Et ça, je l'ai su d'ailleurs en allant au procès suivre les plaidoiries, notamment celle de Maître Zaoui. Mmh. Donc, tout cela met une mémoire un peu, tiraille ma propre mémoire, mais ces dénonciations ont existé. Le fait que des gens aussi, et puis des professeurs tout à fait bien, aient pu succéder à des professeurs juifs mis sur la touche sans que cela leur pose le moindre problème, ça donne à réfléchir. De même, j'ai toujours ce texte de Lévinas en mémoire. Depuis la fin de la guerre, le sang n'a pas cessé de couler, mais les victimes savent au moins où porter des yeux qui s'éteignent. Leurs espaces désolés appartiennent au monde. Ce qui fut unique entre 1940 et 1945, ce fut le délaissement. Hein ? Plus rien n'était officiel, plus rien n'était objectif, absence de toute patrie, congé de toute France, silence de toute église, insécurité de toute camaraderie. Donc ce délaissement a existé quand même.
Bien sûr, Jacques Semelin. Mais bien sûr, la persécution et la mort sont présents jusqu'à la dernière page de ce livre.
Oui,
je n'ai jamais nié cela, la délation. Je parle de l'arrestation dans la famille de Vidal-Naquet. Il y a aussi la rafle des enfants à Neuilly. Vous me faites un faux prophète. Je ne fais pas du tout l'histoire rose du sauvetage des Juifs de France.
Pas
du tout.
J'essaie comprendre et d'évaluer ce qu'a été...
C'est important pour les auditeurs. Oui. Pour moi, la situation, elle est grise, elle est compliquée. Et donc, ces comportements d'entraide vont de pair avec des comportements de salauds. Mais j'ajouterais même que parfois, quelqu'un qui a eu avoir un comportement d'entraide, peut-être deux jours plus tard, va se comporter comme un salaud et réciproquement. Moi, je suis dans cette fluidité des conduites. Voyez. Et je voudrais répondre à Henri sur le point qu'il a soulevé. Mais vous parliez de l'expulsion des pro-juifs. Je dois dire... Alors Henri va ricaner, mais j'ai fait une autre découverte en faisant cette enquête. Je ne savais pas que les enfants juifs pouvaient être encore accueillis à l'école publique sous Vichy, sauf en Algérie. On est d'accord. Bon, il faut que je lise Olivier Loub pour le comprendre. Et l'Italie, qui est souvent citée comme l'exemple, etc., les enfants sont exclus de l'école publique en 1938. Il y a deux pays, à ma connaissance, dans l'Europe nazie, qui accueillent les enfants juifs, c'est le Danemark et la France. Bon. Alors, et du coup, avec tous mes témoignages, voyez, je me dis, mais bon sang, mais c'est vrai, ils parlent tout le temps de leur institut, de leur prof. Et le premier, c'est Stanley Hoffman.
Oui.
Alors, Henri et moi connaissons très bien Stanley depuis longtemps, mais j'ai apporté une citation de Stanley, voilà,
alors,
qui est dans le livre.
Je vais la lire. Dans mes mémoires à moi, le professeur, aujourd'hui âgé de 76 ans et toujours vibrant, qui m'enseigna l'histoire de France, me donna de l'espoir dans les pires jours, sécha mes pleurs quand mon meilleur ami fut déporté avec sa mère, nous fabriqua de faux papiers à ma mère et à moi pour que nous puissions fuir une ville infestée par la Gestapo, Nice, où la complicité des amis et des voisins n'était plus une protection suffisante. Cet homme efface tous les mauvais moments et les humiliations et les terreurs. Sa douce épouse et lui n'étaient pas des héros de la résistance, mais s'il existe un Français moyen,
voilà,
c'est cet homme-là qui représentait son peuple, et pour cette raison, la France et les Français mériteront toujours notre hommage, et je ne cesserai jamais de les aimer. Voilà le texte de Stanley Hoffman que vous citez d'ailleurs dans votre livre.
Oui, ça me semble aller contre cette idée d'une France glauque. Oui. Et c'est quand même un grand professeur de Harvard qui le dit. Et je pense qu'il faut comprendre cela aussi dans cet héritage républicain.
Qu'est-ce que vous en pensez
On est toujours dans le même schéma d'explication. On prend un ennemi, la Vulgate, ce que fait Pierre Laborie. On a une Vulgate qui parlerait d'une France glauque et on s'attaque à cette Vulgate. Mais je vais prendre un seul exemple, la question de la scolarisation des enfants. 8000 enfants sont scolarisés dans l'Académie de Paris entre 1942 et 1943, c'est-à-dire au plus fort des persécutions. C'est dans le livre que René Poznanski a publié il y a à peu près une vingtaine d'années. Nous savons par d'innombrables témoignages, y compris celui que vous utilisez à juste titre, d'Ellenberg, qui est un des plus beaux témoignages sur la période de l'occupation, que la vie à Paris pour des Juifs, alors en l'occurrence des Juifs français, pouvait être étrangement un peu moins redoutable, si on fait abstraction, évidemment, de la faim, puisque toute la famille sera déportée et périra dans les camps, pouvait être à peu près supportable, au moins pour quelque temps. On sait, là, je peux même vous citer des témoignages, d'autres témoignages, que un certain nombre, par exemple, d'envoyés de la résistance ou d'envoyés d'organisations juives qui débarquent clandestinement à Paris, sont tout à fait stupéfaits, à partir de 42, de voir des juifs se promenant avec l'étoile jaune sans être inquiétés. Là aussi, alors, il y a deux choses. Je ne reviens pas sur les Allemands, ça me paraît un problème absolument essentiel.
Oui,
il y a un autre facteur. Et là, je vais tout à fait dans le sens de Jacques. C'est évident que la France, en France par exemple, il n'y a pas eu des manifestations de violence populaire, contre des juifs, comme il y en a eu dans d'autres pays, y compris des pays où la religion, le patriotisme et tout ce que vous voulez était aussi important. Je pense notamment à la Grèce ou à la Roumanie, par exemple.
Ou à la Pologne.
Ou à la Pologne, bien entendu. Bon, donc, ou même à l'Ukraine, où on emmenait les enfants voir les juifs se faire exterminer, ce qu'on appelle d'un mot impropre, la Shoah par balle. Ce genre de manifestation n'a pas existé en France. Il y a effectivement un antisémitisme qui est, on va dire, pour prendre des clichés, plutôt culturels, plutôt politiques, plutôt sociaux, mais qui ne débouche pas, sauf quand même pour une petite minorité, sur des formes de violence. Mmh. Au fond, une des violences, si on laisse de côté la violence propre de l'État, de la police française, etc., la violence la plus manifeste qui est faite contre les juifs, toutes catégories confondues à l'époque, c'est effectivement la lettre de dénonciation. Or, on sait aujourd'hui que la majorité des lettres de dénonciation, qui sont moins nombreuses effectivement que ce qu'on a pu dire, ne visaient pas en priorité les juifs. Donc, le climat dans lequel baigne, en gros, la population juive, n'est pas du tout celui, par exemple, des juifs de Varsovie. Voilà.
Bon. Oui, mais alors, attendez, Henri Rousseau, parce que je voudrais supprimer le mot de vulgate. Il nous est très difficile, à nous tous, d'échapper, quand nous réfléchissons à cette époque, à l'opposition résistant, collabo, et il nous est très difficile de penser l'entre-deux. Et vous avez parlé de zone grise, terme de Primo Levi, qui en parle même pour le camp, et qui dit « il y a en nous un besoin de séparer le mal du bien, de pouvoir prendre parti, de répéter le geste du Christ au jugement dernier, ici les justes, là les réprouvés ». Mais je me demande comment nous pouvons surmonter cette difficulté. Et j'ai lu avec beaucoup d'attention votre dernier livre, Henri Rousseau, La dernière catastrophe, et notamment l'introduction. C'est cet échange que vous avez avec un historien témoin de l'époque, François Bédarida. Hein, et à un moment donné, vous devez organiser, je crois, un colloque sur Vichy, il s'énerve et il dit « Vous n'avez pas vécu cette période, vous ne pouvez pas comprendre ». Moi, j'ai été sensible à cet argument parce que je me demande si ce n'est pas ça qu'il essaye de dire. Justement, nous vivions dans quelque chose de tellement enchevêtré que vous avez forcément, vous qui êtes jeune, même si vous vieillissez, jeune par la grâce de la naissance tardive, un mal fou à vous le représenter. Et au fond, ce malentendu a peut-être quelque chose d'insurmontable. C'est ça, plutôt que la vulgate que j'essaye d'interroger. Henri Rousseau.
Oui, alors là, on est dans un autre débat. Je crois que ce que moi j'ai appris avec cette confrontation avec des témoins depuis le début de ma carrière, et notamment avec des historiens témoins, c'est que l'histoire est aussi une forme de perte. C'est-à-dire que bien sûr que les historiens, quelles que soient leurs divergences, et je nous inclus tous les deux ici, Jacques Semelin et moi-même, nous essayons de reconstituer les choses, mais il y aura une perte. Jamais nous n'arriverons à reconstituer, par exemple, ce qu'un témoin ou un acteur a pu vivre. Or, c'est un peu ce que je défends dans ce livre, mais c'est un autre problème. Je pense que c'est la condition même du travail de l'historien et que cette condition, il doit l'accepter. Alors, par ailleurs, la vulgate, c'est autre chose. Parce que la vulgate, surtout la vulgate qu'on dénonce, que dénonce Jacques Semelin ou que dénonce Pierre Laborie, c'est une vulgate qui se serait répandue dans la société. Je vais prendre quand même un exemple au plus haut niveau. Hein, sur la question de la mémoire. En 1995, vous le savez, Jacques Chirac fait ce fameux discours où il reconnaît la responsabilité de la France dans la déportation. Bon, ça, c'était une chose qui est connue. Ce qui est un peu oublié, c'est qu'à cette époque-là, il fait état de deux France. Hein, il fait état de deux France. Il parle de la France du refus, etc., etc. Bon, là, il évoque la résistance. Et puis, hein, cette commémoration fondamentale dans l'histoire des commémorations françaises, quand même, va être aménagée en 2005 pour réintroduire les justes. Alors, les justes, bien sûr, c'est-à-dire les non-justes, juifs qui ont sauvé des juifs. C'est une petite partie du livre de Jacques.
Oui, ça, une petite partie. Oui,
c'est vrai. Et la question du sauvetage et de ceux qui ont survécu dépasse très largement la capacité de ce qu'on appelle les justes d'avoir pu les sauver. Mais n'empêche, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue politique, en France, la première commémoration négative de l'histoire de France, qui est celle justement où Jacques Chirac prend la parole, aujourd'hui a été, si l'on peut dire, complétée par l'image du juste. C'est quoi le message, au fond, est assez simple. Et là, ce n'est pas une vulgate. C'est une politique publique de mémoire à laquelle moi, personnellement, comme historien, sourcilleux, tout ce que vous voulez, je souscris. Oui, l'État français a aidé à déporter les Juifs, c'est une réalité incontestable. Oui, il y a eu des résistants, c'est une autre réalité de la France de l'époque. Mais aussi, il n'y avait pas que cette zone-là, il y a toute une partie de la France qui mérite d'être reconnue comme telle. Et le livre de Jacques, de ce point de vue-là, s'inscrit dans une tendance qui existe depuis très longtemps en France.
Alors Jacques Semelin, là-dessus, la réconciliation, c'est beau.
Mais pour clore, juste sur le fait que ce sont les Allemands qui étaient par rapport à mon propre bouquin, je voudrais faire preuve de modestie. C'est-à-dire que je considère que ces livres, enfin je souhaite que ce livre ouvre une nouvelle historiographie, et bien sûr que c'est un livre ouvert, en particulier vers d'autres travaux, qui prennent en compte les réactions de l'occupant et la politique de l'occupant. Maintenant, sur votre propre ouvrage... Ben, écoutez, pour moi, c'est un livre important hein, qui a marqué toute une époque, qui est lié à une époque. Donc, on pourrait développer tout ça. Mais j'ai lu avec attention le prolongement 2 et je dois dire que j'étais assez stupéfait par certaines formules. Voilà.
Comme lesquelles ?
Eh bien, disons que, par exemple, par rapport au président François Hollande, qui a dit en juillet 2012, ce sont des Français qui ont arrêté d'autres Français.
Et c'est la France qui a commis l'irréparable.
C'est la France qui a... Oui, et les Français.
Alors, justement.
Et il n'y a plus les Allemands. Et Henri dit, mais oui, bon, c'est vrai, il aurait pu parler des Allemands, mais il fallait qu'il fasse dans la simplicité. Là, je ne suis pas d'accord.
Mais attendez.
Non, mais ça, c'est très important.
Mais non, c'est moi. Je voudrais intervenir pour vous poser une question. Justement, vous montrez très bien, Henri Rousseau, qu'il y a une sorte d'infléchissement de la mémoire. Après Chirac, on s'ouvre aux justes. Donc, il y a les résistants, il y a les justes, il y a une entraide même plus modeste qui commence à entrer en ligne de compte. Était-ce bien le moment de dire, non plus l'État français, mais la France, puisque précisément la preuve semble faite que la France était trop diverse pour qu'elle soit incriminée de cette manière par le président de la République.
Écoutez, je ne vais pas prendre la défense de François Hollande, j'ai pas la phrase exacte sous les yeux.
Mais je sais qu'il y a l'expression « la France ».
Oui, mais ce que je rappelle quand même, c'est que dans le discours de François Hollande, il évoque la collaboration. Hein. Je cite un autre discours qui m'avait à l'époque beaucoup, beaucoup frappé, c'était le discours de Lionel Jospin, je crois, en 1998, où un peu dans la suite, enfin une sorte de surenchère par rapport aux prédécesseurs, en gros, la rafle du Veldiv et la déportation des Juifs n'étaient dues, au fond, qu'à Vichy. Bon, donc ça, c'est une tendance que j'ai dénoncée il y a très longtemps, dans la première invasion du passé qui ne passe pas, on le dit déjà. C'est pour ça que je m'étonne. M'étonne que dans l'ouvrage de Semelin, ils ne tiennent pas compte de cette remarque. Bon, laissons ça, on en a parlé. Je pense qu'il y a eu une évolution tout à fait fondamentale. C'est pour ça que je m'inscris dans l'idée que la vulgate aurait continué. Je donne même...
Complètement.
J'en donne quelques exemples très simples. Écoutez, on ne va pas refaire toute l'histoire de la mémoire de l'occupation de ces dernières années, mais regardez quand même ce qui s'est passé avec le prédécesseur de François Hollande. Et je n'aurai pas ici un point de vue ni critique, ni enchanté. Mais de quoi s'est emparé ce président pour marquer, on peut dire, la politique de mémoire de son empreinte ? De la résistance. Guy Moquet, le maquis des Glières. La question...
Que pensez-vous, Henri Rousseau, parce que ça semblerait plutôt corroborer les thèses de Pierre Laborie, de cette manière qu'on a aujourd'hui de revenir sur l'épisode du maquis des Glières pour bien montrer que finalement, c'était peut-être pas si héroïque qu'on l'a dit.
Non, c'est pas une manie, c'est un ouvrage.
Oui, mais un ouvrage.
Une thèse.
Oui,
mais c'est le train des historiens. Bon, après, moi, je ne vais pas discuter aujourd'hui de ce travail. Il faut savoir, l'histoire, la mémoire, on va pas faire un débat théorique là-dessus. Il faut savoir distinguer ce qu'est un travail d'historien qui essaye d'approcher au plus près d'une certaine vérité des faits et de ce qu'est une politique de mémoire. Ce que je veux dire par là, en citant Sarkozy, la question de savoir si c'est vrai ou si c'est faux ne m'importe peu. C'est pas le problème ici. Ce que je veux dire par là, c'est que autant dans les années 90, la mémoire de la résistance semblait avoir été complètement sacrifiée sur l'autel de la mémoire de la Shoah, c'est le thème central
de notre ouvrage avec Eric Conan en 94, il y a 20 ans. Bon, autant de ce que je constate, et après tout, le livre de Jacques Semelin s'inscrit tout à fait dans ce contexte, je n'ai aucune raison de le nier, bien entendu, autant on a, d'une certaine manière, retouché cette vision dans les politiques et les discours officiels.
Mais l'historiographie... Mais à travers la notion de juste. À travers la notion de juste.
Oui, mais
travers
la notion vous élargissez les choses. Oui, d'accord. Voilà, c'est ça.
Mais il y a quand même Jacques un point, Henri, où je voudrais vous reprendre. Que vous parliez du discours de Sarkozy. Ah oui, bah alors malheureusement, c'est... C'est un discours d'avril 2007 de Sarkozy, avant donc l'élection, qui dit « La France n'a pas commis de génocide, la France n'a pas commis de crime contre l'humanité. » Et vous reprenez ça, vous dites « Mais oui, la France a commis un crime contre l'humanité. » Alors, excusez-moi, qu'est-ce que la France? Je voudrais reprendre une interrogation qui est chère à Paul Thibault. Qu'est-ce que la France? Vous vous appuyez, d'ailleurs, Sarkozy, il a tout faux, puisqu'il y a le procès Papon. Mais le procès Papon, c'est pas une condamnation de la France. C'est la condition d'un individu. C'est Maurice Papon qui est complice. Donc c'est cette généralisation. Non. C'est cette généralisation que je trouve problème. Et de cette généralisation, la France, c'est les Français. Non. Et il y a... voilà.
Alors, la France est représentée à l'époque par un gouvernement légal. D'un point de vue institutionnel, du point de vue diplomatique, la France est représentée par le gouvernement de Vichy. Qu'on le veuille ou pas, c'est ainsi. Bon, or, de ce point de vue-là, le gouvernement
L'État
de Vichy...
Français.
On ne va pas revenir.
On va dire maintenant
que le régime de Vichy n'était pas constitutionnel. Bon, on peut ouvrir ce débat. C'était le débat de la France libre en 1943.
Oui, mais c'est vrai.
En même temps, il a agi au nom de la France.
Mais vous avez raison. Et il est vrai que c'est un terme...
Il y a deux France. C'est Chirac qui l'a dit. Il y en a même trois, il y en a même quatre.
Mais il n'y a même pas que deux France. Qu'est-ce qui reste de la France construite de Clovis au traité de Savoie? Oui. Elle est désossée, saucissinée.
Alors il faut supprimer le mot France dans
le vocabulaire. Donc à ce moment-là, quand on parle de la France de Vichy, c'est un rabougri de France. Alors c'est le problème. Je comprends qu'on utilise ce mot France, mais c'est la généralisation qu'on en a faite depuis 30 ans. On parle de la France en général qui a commis un crime contre lui. On parle des Français qui ont tous été des salauds. Bien sûr, c'est corrigé par les justes, etc.
Mais ça reste le discours dominant. Pas seulement par les justes, c'est corrigé par vous-même, l'un et l'autre. Et donc, l'émission doit s'arrêter maintenant. Je vous remercie. Elle a été très animée et c'est bien. Alors, Jacques Semelin, je rappelle le titre de votre livre, « Persécution et entraide dans la France occupée », coédité par les Arènes et les éditions du Seuil. Et je voudrais rappeler le dernier livre de Henri Rousseau, « La dernière catastrophe, l'histoire, le présent, le contemporain », aux éditions Gallimard, et puis également réédité donc aux éditions Hachette dans la collection Plurielle, Éric Conan, Henri Rousseau, Vichy, un passé qui ne passe pas. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Le monde des bobos » et mes invités seront Jean-Michel Normand et Thomas Legrand. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Gilles Davidas. À la technique aujourd'hui, Frédéric Changenet. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.